Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada. Nashindwa na mali sina we.
Par vous donner quelques informations sur tout ce qui se passe cette semaine à Marseille.
Quoi ?
On commence donc par ce soir même, hein, ce soir même, au Tourski à 19h30, il y aura une rencontre avec Juan Branco. Juan Branco, il a intitulé sa conférence Se révolter au XXIe siècle, de Wikileaks au Gilet jaune. Il commencera l'après-midi à 15h à Aix-en-Provence, mais je préfère vous annoncer tout de suite les choses qui se passent à Marseille. Et c'est tout à l'honneur du Tourski que de recevoir ce monsieur. C'est toujours mercredi, à l'odeur du temps. Non, jeudi, pardon, à l'odeur du temps. C'est la rencontre avec Denis Guterben, c'est un cycle « Idées en sciences ». Et le titre du livre qu'il va présenter, et puis qui occasionnera un débat, c'est « Conférence, le savant, la guerre, les gaz ». Pendant, comme faisait remarquer André Gide, comment se fait-il qu'il y ait un tel massacre dans la guerre mondiale et parce que la science s'y était mise, et notamment avec les gaz. Et il se pose la question du statut des sciences à l'heure actuelle, parce qu'il a été marqué par ce moment de la guerre, et savoir si les sciences, c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Ensuite, jeudi 4 avril, devant le centre du courrier du Dôme. Alors, ce n'est pas exactement ça, une annonce littéraire, mais enfin, le courrier, c'est drôlement important pour nous. Il y aura un rassemblement. Ce centre postal, il est à côté du Dôme. Et le thème, c'est « La Poste, notre service public, fout le camp ». Rien que ça. 17h30, là, au 96 La Canebière, avec Bernard Tabuteau. Présentation critique de la construction européenne. Vous allez voir dans tous les sens, hein, y compris en Afrique, le social en France et l'avenir de la planète. Au centre social, ce même jour, au centre social de la Busserine, 34 rue de la Busserine, je précise l'adresse, c'est dans le 14e, et le titre, face aux collines du Rwanda. Et c'est par Ignace Fabrizio. Et il y aura, c'est une conférence avec. Merci. Ma collègue me fait baisser le micro. C'est une conférence sur le Rwanda. Et c'est appelé par la LDH, PACA Survie et Mila. Et c'est sous forme d'un ballet. À 19h, à la librairie Transit, présentation du livre sur le carnaval de la plaine. Quand je vous dis qu'il y en a pour tous les goûts, et c'est très largement présenté là, dans l'agenda de Mille Babord. Passons à vendredi, hôtel de ville, quai du port, une grande manifestation. Nous voulons, grande, je ne sais pas s'ils seront très nombreux, j'avoue que je ne les connais pas. Nous voulons des coquelicots. Marseille, c'est tous les premiers vendredis du mois qu'ils vont se rassembler comme ça. Et je rappelle qu'ils sont pour la suppression de tous les pesticides. 19h, vendredi toujours, sous l'ombrière, rassemblement comprendre le génocide du Tutsi Rwanda. Donc deux prestations sur le thème du Rwanda. 19h, librairie Transit, présentation du livre texte, c'est texte carte blanche de Karine Paré. Et 19h30, causerie mensuelle du CIRA, 50 rue Consolat, on n'est pas très loin, c'est la trilogie de Jean-Charles. Enfin, samedi, réunion publique de Révolution internationale, c'est le centenaire de la fondation de l'Internationale communiste. Il est temps de passer au livre, c'est copieux, mais il faut, on est loin d'oublier les livres. Premier livre, Le détail du monde de Romain Bertrand, c'est au seuil, 288 pages, 22 euros. Il se présente comme un petit garçon qui était très méchant avec les animaux, qui guettait les lapins pour les étrangler, qui trafiquait les insectes. Et bien, il a bien changé, comme vous le verrez si vous lisez ce gros livre. Autre livre, Le sport des rois de C.E. Morgan, c'est traduit de l'anglais, plus exactement d'anglais parlé aux USA, et c'est un livre, le sport des rois, et ben c'est le sport qui consiste à aimer les courses. C'est donc, vous le voyez, un livre assez satirique sur cet univers des rois. Les étranges autres, autre livre, cet étrange nazi, qui sauva mon père chez Stock, un nazi qui, en effet, a sauvé de nombreux juifs. 332 pages, 20,50 euros. Enfin, Le naufrage des civilisations de Amin Malouf, c'est paru chez Grasset. J'ai déjà lu des livres ici de Amin Malouf, mais là, ce n'est pas un roman. Hein, ce n'est pas un roman sur le passé. Au passé, c'est un diagnostic sur notre civilisation. Enfin, Un jardin en Australie, c'est un premier roman de Sylvie Tanette chez Grasset, 174 pages, 16,90 euros. Deux familles successivement habitent une maison avec un jardin et ce jardin va devenir le lieu où s'enracinent les relations entre les gens et les relations entre les générations même, puisqu'il y a deux générations successivement. Je ne peux pas, en terminant, oublier que est paru Jean Sénac, poème, chez Actes Sud, pas moins de 848 pages. On sait le rôle important qu'a eu Jean Sénac pour l'indépendance de l'Algérie et après son indépendance et le fait qu'il s'est retrouvé très seul parce qu'il était homosexuel de la classe littéraire algérienne, la nouvelle classe. Voilà donc les différentes informations que je voulais vous donner avant de commencer notre livre pour cette fois-ci. Et ce livre, c'est « Non, le masculin ne l'emportera pas ». Il était prévu pour le mois de la femme, le mois de mars. Bon, on est un peu en retard, mais ça ne fait rien parce que c'est bien utile. C'est bien utile de continuer la lutte des femmes, même si ce n'est pas le mois qui est prévu pour. Ce livre est paru aux éditions X. C'est un petit éditeur, un courageux éditeur, j'ai entendu dire. Et il est paru en 2014. Il n'est donc pas tout récent, mais vous verrez qu'il n'a rien perdu de sa modernité. Et le sous-titre, qui en dit long, c'est « Petite histoire de la résistance de la langue française ». Hein, c'est la résistance des femmes. La résistance des femmes contre la masculinisation de la langue. Qui est l'auteur? L'auteur, c'est quelqu'un qui a été oumlak. Donc, elle n'a pas pris le féminisme dans les livres et dans les grandes idées. Mais concrètement, ensuite, elle a fait une carrière universitaire. Elle est aujourd'hui professeure de littérature française de la Renaissance à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et elle est membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste de Marguerite de Valois et d'autres femmes d'État, comme elle les appelle. Voilà une carrière universitaire, mais une carrière qui a d'abord été marquée par le militantisme et c'est une militante féministe. Depuis les années 70, on voit le rôle à jouer par 68 là, et elle s'est constamment investie dans des campagnes pour le droit à l'avortement, et puis pour la parité, et par l'institutionnalisation des études féministes. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui écrit des livres, mais c'est quelqu'un qui s'occupe des structures. Et on va voir tout de suite, avec la première lecture, page 9, quel est le projet du livre. Ça fait partie de l'avant-propos de ce petit livre.
Nous avons eu en notre guerre de la Ligue Madame de Montpensier, sœur de feu Monsieur de Guise, qui a été une grande femme d'État et qui a porté sa bonne part de matière à bâtir la dite Ligue. Brantôme, Recueil des Dames, fin du XVIe siècle. Essayez de dire une femme savante, une grande femme, une femme d'affaires, une femme d'État. Autant parler d'un homme de ménage. Adolphe Monod, La femme, 1848. À l'image de ces deux citations, ce petit livre voudrait montrer que, pour l'essentiel, les problèmes que nous rencontrons avec le sexisme de la langue française ne relèvent pas de la langue elle-même, mais des interventions effectuées sur elle depuis le XVIIe siècle par des intellectuels et des institutions qui s'opposaient à l'égalité des sexes. Et que, pour l'essentiel aussi, les solutions que nous cherchons à ces problèmes existent déjà. Les solutions linguistiques, s'entend. Ces évidences ont mis longtemps à s'imposer à moi. Ce qui est normal, vu que la plupart des travaux consacrés à cette question portent sur le temps présent, soit que leurs auteurs et autrices réfléchissent au fonctionnement de la langue française en elle-même, soit qu'elle et ils la comparent à d'autres langues ou systèmes linguistiques, comme si celles-ci, ceux-ci, ne variaient pas. Parallèlement, néanmoins, tout le monde répète ce truisme, les langues varient. Mais bien peu de gens le mettent en relation avec ces deux autres truismes, le système de pouvoir qu'est le genre relève de la culture, et celle-ci ne s'appréhende pas sur quelques décennies. Il se trouve que je suis historienne des femmes de l'ancienne France et de la manière dont leur mémoire se maintient ou disparaît au cours des temps qui nous séparent d'elles. Confrontée à des textes de différentes époques qui témoignent d'une part d'usages de la langue différents des nôtres et d'autre part de controverses sur ces usages, j'ai fini par comprendre que nous sommes les héritières et les héritiers d'un long effort pour masculiniser notre langue. Effort qui s'insère évidemment dans un plus vaste mouvement pour maintenir ou accentuer des rapports de force, dont ceux qui organisent la domination masculine. J'ai par ailleurs expérimenté, pour mener cette petite guerre depuis de longues années, que l'argument historique, ce mot existe depuis le XVe siècle, au moins, voire politique, l'Académie française a tout fait pour qu'il disparaisse, est beaucoup plus efficace que l'argument moral, utilisant des expressions non sexistes. Sans parler de l'argument francophoniste, les Québécoises le disent, pourquoi pas nous ? Quasiment irrecevable dans l'ancien empire qu'est la France, tous horizons politiques confondus.
Voilà, on voit son projet et qu'elle se tient sur un fil mince entre le fait de se battre pour féminiser les noms. Est-ce qu'on met un E muet ? Est-ce qu'on dit auteur ? Est-ce qu'on dit autrice ? Vous allez voir toute la, tout ce qui est autour de ce nom. Et elle montre une face tout à fait cachée de l'histoire de la langue. En effet, la langue évolue, on le sait, mais dans son évolution, on a squeezé le fait de cet effort de masculinisation. Un mot pour montrer à quel point on a appris quelque chose en lisant ce livre. Pour la langue française, qu'est-ce que c'était pour nous ? Eh bien, c'était d'abord qu'il n'y en avait pas. C'était le latin pour les textes et puis le roman pour les œuvres littéraires qui étaient écrites en langue romane. Et puis, après l'ordonnance de Villers-Cotterêts, eh bien, le français est devenu la langue officielle. Mais à ce moment-là, il a souffert parce que c'était l'époque des guerres de religion Et même s'il y a des grandes dames à l'occasion de se sont fait remarquer en dirigeant la Ligue, c'était la Ligue des protestants, eh bien, là, les femmes n'avaient pas beaucoup leur place. Et la cour de Henri IV était une cour rude. Est arrivé le moment de la Pléiade. Alors la Pléiade, grand développement de la poésie, des arts, et développement avec le fameux manifeste de la Pléiade qui a été terriblement attaqué par au début du siècle suivant par Malherbe, qui trouvait que c'était vraiment le chaos, la confusion. Et puis arrive alors Richelieu. On voit là la masculinisation qui fait un grand pas, et les origines. Il crée aux origines de cette masculinisation, enfin, non pas l'origine, mais le fait qu'elle s'inscrit bien dans les institutions, il crée l'Académie française. Et cette Académie française, elle était chargée de faire un dictionnaire. Et alors, là, ils mettent l'idée de l'ordre naturel, ils trouvent que la Pléiade, non, c'était beaucoup trop inspiré de l'ancien temps et de la littérature italienne. Et par conséquent, cela va être une chape de plomb sur le féminisme et la féminisation de la langue. Et on voit que le rapport de force entre les sexes va être important pour toute l'évolution de la langue. Et jusqu'à la fin du XVIe siècle, les enjeux, dit l'historienne, parce qu'elle est historienne autant que linguiste, hein, Eliane Viennot, eh bien, les enjeux étaient politiques, mais il faut souligner l'influence de la. Et c'est le rapport. Cela va changer, on va trouver un enjeu dans la langue et dans la féminisation. Il faut souligner pour cette avancée de la masculinisation ce qu'elle appelle la clergie. La clergie, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement l'Église, mais toutes sortes de laïcs influencés par les idées de l'Église et qui étaient opposés, évidemment, à la féminisation de la langue. Et voilà un exemple, page 24, une dispute essentiellement politique.
Jusqu'à la fin du XVIe siècle, on l'a dit, la dispute a surtout concerné le terrain politique, au sens à la fois très étroit et très large. Elle a mêlé les questions de haute politique, les femmes peuvent-elles gouverner, de politique familiale, les femmes peuvent-elles ne pas obéir à leur mari, et de politique sociale, les femmes peuvent-elles exercer les mêmes fonctions que les hommes. Trois domaines évidemment interdépendants, impossible de répondre oui à l'une de ces questions et non aux autres. Si les enjeux sont si clairs, c'est que la polémique est née au sein de la classe intellectuelle et dans un cadre bien précis, celui de la redistribution des pouvoirs liés à la formation des États modernes, à savoir le dessaisissement des potentats locaux de leurs prérogatives fiscales, militaires, juridiques, au profit des monarques. Un dessaisissement rendu possible par la création puis le développement massif des fonctions publiques de l'État. Les emplois créés dans ces dernières ne demandant que des aptitudes intellectuelles, toutes sortes de gens auraient pu y prétendre. Or, un groupe particulier s'y est taillé un monopole, les chrétiens de sexe mâle. L'explication est simple. À l'époque où le besoin d'administrateurs a commencé à se faire sentir, vers la fin du XIIe siècle, seule l'Église était en capacité d'en former. C'est donc elle qui a mis sur pied ces machines à produire des experts que sont les universités, créées à partir du XIIIe siècle, notamment la plus importante durant deux siècles, l'Université de Paris. D'où les avantages conférés par ce maître d'œuvre à ses ouailles, aux dépens d'autres groupes abritant des savants, les juifs, les femmes, et même à l'origine du processus, les laïcs chrétiens. Si ces derniers sont assez vite parvenus à s'imposer, les deux autres groupes sont restés à la porte. Seuls les chrétiens de sexe masculin ont été autorisés à passer les diplômes, outils de sélection vite transformés en sésame pour l'exercice des métiers prestigieux de la fonction publique. Ainsi est née la clergie, classe mettant son savoir au service de qui lui permet de se tailler une place au soleil. L'État, le roi, les principautés, les municipalités et bien sûr l'Église. L'État s'avérant progressivement le plus gros fournisseur d'emplois.
Voilà, à remarquer, la vitupération des femmes, c'est un mot qui revient souvent dans le livre, c'est-à-dire le fait d'en dire beaucoup de mal, eh bien, elle prend ses racines très loin dans l'histoire et c'est la loi salique, cette fameuse loi salique que je trouvais normale, moi. On arrive à la trouver normale. Elles n'ont pas été... Qui veut que les femmes ne puissent pas aller au pouvoir. Page 26.
La mise en orbite de l'exception française. Parce qu'elle est la première à construire son État, la France est pionnière dans les progrès de la domination masculine. Mais c'est au début du XIVe siècle qu'elle en devient le champion toute catégorie, lorsqu'à trois reprises, entre 1317 et 1328, une princesse héritière du trône, Jeanne de France, en est écartée par des hommes. Si les deux premiers sont ses oncles, le dernier n'est qu'un cousin, qui passe alors non seulement devant elle, mais devant une kyrielle d'autres princesses mieux placées que lui sur la ligne successorale, éliminant par la même occasion tous leurs descendants. Ce passage des Capétiens directs aux Valois déclenche une guerre qui va durer, comme on le sait, plus de 100 ans, mais il entraîne aussi une intensification de la vitupération des femmes. Les propagandistes des Valois, en effet, n'ont rien trouvé de mieux pour justifier leur arrivée sur le trône que d'alléguer une vieille coutume française inexistante, empêchant les filles de rois de succéder à la couronne. Le peuple français, explique-t-il, est trop noble pour être gouverné par des femmes. Non seulement le dénigrement du IIe siècle devient monnaie courante dans les milieux qui font profession de pensée, mais les attaques concrètes s'intensifient. D'où l'émergence de protestations, comme celle de Christine de Pisan, et aussi de quelques hommes décidés à soutenir la querelle des dames, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire leur cause. C'est toutefois l'élaboration, à partir des années 1410, d'une véritable théorie justifiant le cas français, qui finit d'installer ce pays dans une position unique et de conforter son rôle de leader dans la mise en œuvre de l'ordre masculin. Si les femmes, disent ces artisans, ne peuvent pas monter sur son trône, c'est en vertu de la loi salique, une loi datant de la fondation du royaume par les Francs saliens, qui aurait toujours été appliquée depuis et qui est donc intouchable. Ajoutons qu'entre le début du XIVe siècle et le temps où la loi salique est enfin au point, les années 1460, les reines de France n'ont pas été à la noce. Une, peut-être deux, ont été assassinées, Marguerite de Bourgogne, bonne de Luxembourg. Une n'a été retirée de prison que pour rendre son dernier souffle, Blanche d'Artois. Les marges de manœuvre des régentes ont été restreintes par ordonnance royale, alors qu'elles avaient presque toujours eu les pleins pouvoirs. L'une des rares reines à avoir joué un rôle notable, Jeanne de Bourgogne, a été violemment critiquée, et la seule à avoir gouverné, Isabeau de Bavière, l'a fait dans un contexte exécrable. Elle a dû signer le traité de Troyes qui livrait la France aux Anglais, ce qui l'a vouée aux gémonies pour l'éternité. Quant à la mémoire de toutes leurs homologues, elle a été gravement salie dans les ouvrages d'histoire afin d'illustrer le bien fondé de la prétendue décision des fondateurs du royaume. Les femmes qui ont régné, toutes usurpatrices, ont toujours engendré des catastrophes.
Voilà un bel exemple de vitupération. Mais les femmes, n'écoutons pas trop ce compte rendu terrible. Les femmes, elles ont contre-attaqué. Hein. Au moment où on ne veut pas qu'elles reviennent au pouvoir, et bien c'est là qu'on va les voir y revenir. Je prends l'exemple de Anne de France à la mort de Louis XI, qui a gouverné après la mort de son mari. On peut citer aussi Anne de Bretagne, c'est la veuve de Charles VIII et qui a gouverné la France. Claude de France, c'est l'aîné de leurs deux filles qui épousa François d'Angoulême. Alors François d'Angoulême, c'est François Ier, mais elle aime bien changer les noms pour nous obliger à changer le regard. De même, tout à l'heure, j'ai oublié de le souligner, on parle de l'Université de Paris, mais tout le monde sait bien que c'est la Sorbonne que Rabelais a tant critiquée, en disant les Sorbonicoles. Et Donc là, François d'Angoulême, c'est François Ier. Et pendant 16 ans, il a préféré gouverner avec sa mère, durant 16 ans. Et puis ensuite, il a gouverné avec la duchesse d'Étampes, qui était à la fois sa maîtresse et son mentor. Sans compter sa sœur, qu'il écoutait beaucoup, Marguerite de Navarre. À ce sujet, il est utile de faire une distinction entre Marguerite de Navarre, la sœur aînée de François Ier, femme de lettres et aussi femme d'État, et puis celle qu'on appelle couramment la reine Margot, surtout depuis le film, qui porte ce nom comme titre, qui était la sœur fille de Catherine de Médicis et sœur de deux frères qui sont morts tristement, et elle a épousé Henri IV. Et puis, alors Henri IV, lui, il a eu deux femmes, elle, et puis ensuite une autre, Marie de Médicis, qui était reléguée au rôle de fabricante d'enfants, et c'est la mère de Louis XIII, Marie de Médicis. Et à noter, la reine Margot s'est bien entendue avec Marie de Médicis, elle l'a toujours soutenue. Puis la veuve de Louis XIII, Anne d'Autriche, était une grande dame, hein, et ces femmes se sont données aussi une mission culturelle. C'est ainsi qu'elles ont voulu intensifier la culture, faire venir à leur cours, parce qu'elles avaient des cours, des artistes, des musiciens, des peintres, des sculpteurs et dès 1530, on a vu d'autres femmes qui n'étaient pas des grandes dames, des bourgeoises et des nobles de petite naissance qui se sont engouffrées dans la brèche et ont publié leurs écrits. On voit là que la défaite politique, eh bien, elle se double d'une grande créativité culturelle.
La défaite politique. La puissance politique des femmes, en revanche, a subi un sérieux revers à la fin du XVIe siècle, à l'occasion de la nouvelle crise dynastique qui s'est ouverte dans les années 1580. Alors que la descendance d'Henri II et de Catherine de Médicis semblait assurée, avec quatre garçons, aucun n'a eu de fils légitime et presque tous sont morts jeunes, voire très jeunes. L'époux de leur sœur serait monté sur le trône sans plus de problème que Louis XII et François Ier, s'ils n'avaient été protestants à une époque où la France était déchirée par les guerres civiles et religieuses. Le futur Henri IV a donc mené campagne, non au titre de gendre et de beau-frère de roi de France, mais au nom de descendant direct de Saint-Louis selon la loi salique. Il en a même fait le cœur de sa propagande lorsque les Espagnols sont entrés ouvertement en lice, le roi d'Espagne briguant le trône pour la fille qu'il avait eue d'une fille de Catherine de Médicis. En dénonçant ce mythe, les autres prétendants, il y en eut jusqu'à six, soit se revendiquaient de la même loi, mais selon un autre décompte, soit renonçaient à dénoncer la supercherie, tant faisait mouche l'argument du peuple français trop glorieux pour que son trône puisse jamais tomber en quenouille. C'est ainsi que le mythe de la loi salique, chanté par un camp ou l'autre durant près de 10 ans, est devenu une réalité jusque dans les plus humbles chaumières. Partout, il s'est répété qu'en France, toutes les femmes sont soumises à leur mari, même les reines. Bien entendu, Henri IV n'est pas parvenu à ses fins au terme d'un débat de principe ou d'une controverse juridico-historique, du reste insoutenable, mais parce qu'il s'est fait catholique en juillet 1593, à l'heure où l'Espagne et le dernier carré des ligueurs parisiens paraissaient pouvoir l'emporter. Il n'empêche que son accession au trône, puis l'annulation de son mariage avec Marguerite de Valois, puis la naissance d'un fils 9 mois après son remariage avec Marie de Médicis, puis la relégation de la nouvelle reine au rôle de productrice d'héritiers, ont paru sonner une nouvelle fois la bonne, semblait-il, la fin des gouvernements féminins au royaume des Lys.
voilà l'historienne qui dit que bon, il y a la langue, il y a la féminisation de la langue, mais la véritable raison, elle met les choses en place là, c'est que Henri IV a abjuré le protestantisme. On va vous mettre de la musique pour marquer ce deuxième moment, qui est un moment, vous allez le voir, plus linguistique, de la lutte contre la masculinisation de la langue. Galère, galère. On vous rappelle, vas-y. De Madame Viennot et un dernier petit point historique au sujet de la défaite politique des femmes sur lequel on vient de vous parler. Elles veulent battre en brèche les femmes et parce que c'est bourgeoise et elles veulent battre en brèche les femmes de cour et les grandes lettrées. Il y a eu une querelle entre femmes. Et là, elles veulent, tout en faisant cela, elles se fondent sur celle qu'on appelle la Nouvelle Marguerite, c'est-à-dire Marguerite de Valois, la reine Margot, pour l'appeler par son nom plus connu, et qui publie ses mémoires, et ses mémoires sont un best-seller. Et le problème va donc, je l'ai déjà dit, se déplacer de l'histoire vers l'écriture. Et le premier sujet qui fâche, et on aura plusieurs, hein, c'est celui de la question des noms propres et des noms de métiers et des fonctions et de fonctions prestigieuses.
C'est à l'évidence sur ce terrain le plus visible, le plus patent, que l'offensive des puristes va être la plus dure, la plus systématique, la plus longue. En 1607, Charles Maupas, auteur d'une grammaire françoise contenant règles très certaines, et non celle qui prévaut encore en la matière. Tout nom concernant office d'homme est de genre masculin, et tout nom concernant la femme est féminin, de quelque terminaison qu'il soit. 25 ans plus tard, Antoine Houdin redonne la règle de sa grammaire française rapportée au langage du temps, en l'assortissant de quelques exemples. Tous les noms de dignité et d'office appartenant à l'homme sont masculins. Pape, évêque, empereur, roi, comte, conseiller, avocat, procureur, licencié, marchand, etc. De même sont féminins les noms d'office et conditions appartenant aux femmes. Reine, comtesse, duchesse, abbesse, nonne, conseillère, barbière, etc.
Alors voilà comment il divise les noms des métiers et des fonctions prestigieuses. Il y en a qui sont pour les hommes et il y en a au moment où on les concède aux femmes. Et c'est une offensive de masculinisation. Et je t'ai donné la page 47 où tu en
es. Ça y est, je l'ai lu.
Alors, on va voir cette entreprise qui va éclater. Ce sera... Elle appelle ça en riant un casus belli, un cas de guerre, pendant la seconde, dès la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est auteur masculin, autrice. Ben oui, en effet, nous on met auteur avec un E, autrice, ça nous paraît un peu bizarre, mais c'est que autrice s'est bien battue pour garder sa place. Et l'Académie, pour prendre place dans la langue française, et l'Académie a pris parti pour finir pour la femme auteure, mais non sans peine, et il n'a pas du tout été suivi par les écrivains. Au XVIIIe siècle, par exemple, on voit Diderot, à l'article citoyen de son dictionnaire, dire que c'est un substantif masculin, et alors il dit on accorde ce titre à quelques-uns de la famille d'un citoyen, les femmes, les enfants, les personnes âgées, mais il faut que c'est tout à fait exceptionnel. Et on arrive, en fait, on va arriver maintenant, puisqu'elle fait un peu l'histoire de la langue, au 19e siècle. Alors, au 19e siècle, apparaît quelqu'un qui s'appelle Becherel. Becherel, moi, je connaissais une petite grammaire. Peut-être que c'est la suite de cet auteur-là, je n'ai pas pu vérifier. Et Becherel montre une évolution entre ses écrits de 34. Il a écrit un traité sur la langue. Et on voit une évolution chez lui de 34 à 80. Donc on voit la fin du siècle, hein, et qui sera plus trop où on en est. Et il dit que oui, quand même, auteur est plus... Il faut savoir, auteur est plus utilisé qu'autrice, et qu'il faut savoir écouter avant de prendre des décisions l'évolution même de la langue. Mais ce n'est pas fini, hein. Elle voit un certain nombre de chapitres et de thèmes. Et il y a la question des accords, et notamment celui du participe présent. Et c'est là que toujours on apprend que le masculin l'emporte toujours, et c'est cette phrase qui est la cible de toutes ces critiques. Alors, question des accords, page 78.
On a sauté
73. Becherel, 73.
On a sauté Becherel à la page 60.
Ah, alors...
Je prends Becherel ou pas?
Oui, bien sûr.
Un exemple particulièrement parlant permettra de prendre la mesure de la vivacité des débats sur la masculinisation de la langue française et de l'embarras où se trouvent ses partisans. Il apparaît dans la grammaire nationale de Louis-Nicolas Becherel.
Voilà le titre. Grammaire nationale.
Qui comporte, depuis sa première édition, 1834, un chapitre intitulé « Noms qui expriment des états, des qualités qu'on regarde en général comme ne convenant qu'à des hommes ». Le linguiste ne sait guère à ce stade que constater la bizarrerie française. Quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, etc., on ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, etc., mais bien professeur, graveur, compositeur, traducteur, etc., par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions.
Et voilà.
C'est à l'usage, dit-il, que l'on doit cet état de fait. L'extrait permet néanmoins de constater ce qui se dit en réalité sous la rubrique de ce qui ne se dit pas. Dans l'édition de 1847, Becherel procède différemment et la rhétorique devient plus subtile. Ici se présente une grande difficulté dont le manque de solution a toujours fait époque dans les annales grammairiennes. Comment se fait-il, s'écrit nos grammairiens, que la langue française se soit mise en opposition avec toutes les autres langues, en laissant au masculin tous ses noms, auteur, amateur, docteur, géomètre, général, graveur, professeur, philosophe, poète, traducteur, etc., lors même que ces noms désignent des femmes.
Voilà, on est un peu enfoui sous le grand nombre de noms, mais elle a bien voulu aller regarder tout ça, et c'est évidemment important. Comme je disais, à la fin du XIXe siècle, on ne sait plus trop où on en est, mais va venir la question des accords, où avec la fameuse formule, le masculin l'emporte toujours. Il s'agit de voir que quand il y a un groupe avec nom féminin et des noms masculins, et bien la Corse fait toujours masculin pluriel.
Page.
Page 73.
En revanche, la règle de l'invariabilité du participe présent a été globalement refusée par les locuteurs et les locutrices de l'Ancien Régime. Ainsi, lorsqu'en 1738, Hélène Berger rédige son testament, elle décrit sa situation receveuse, puisque 26 ans, elle est veuve de maître Jacques Boquet, procureur fiscal et receveur de la terre et seigneurie de Vignelie, y demeurante et étante en bonne santé. Beauvallet Boutouiri,
étante NTES.
En 1794 encore, l'officier qui enregistre la déclaration de grossesse de Marie-Françoise de Sailly note qu'elle est couturière, âgée de 25 ans, native de Paris, demeurante rue Neuve-Saint-Sauveur, numéro 329. Godinot, page 181.
Demeurante.
Les lettrés eux-mêmes continuent d'accorder. Ainsi, lit-on dans la cinquième édition du Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, 1740, à l'article du Tillet, il y eut lettre contenante, mandement très expresse pour lui faire ouverture.
Voilà, on se perd un peu dans les méandres de la linguistique, mais il va y avoir un autre accord, c'est l'alternance du « le » et du « la ». Les femmes veulent, là où nous mettons maintenant « le », elles veulent garder « la ». Et c'est la page 78 qui nous renseigne là-dessus.
Les pronoms attributs. En revanche, la volonté des réformateurs d'imposer le masculin dans le cas du pronom attribut au singulier, « le », alors que la forme féminine existe « la », rencontre une forte résistance. En la matière, l'offensive semble datée du tout début du XVIIe siècle. Ainsi, Maupas explique-t-il dans sa grammaire françoise que « le »,« la », »,« les » sont nominatifs souvent, comme « sont cela vos enfants ?» Oui, ce les sont.
Cependant, on n'a pas à comprendre.
Quelquefois, le est employé neutralement, comme signifiant id, iloud, ceci. Comme trouvez-vous cette femme belle? Si elle ne l'est pas, elle le pense être. Ce quelquefois doit être bien rare. 40 ans plus tard, en effet, Vaugelas note la résistance particulière des femmes à cette innovation. C'est une faute que font presque toutes les femmes, et de Paris, et de la cour. Par exemple, je dis à une femme, « Quand je suis malade, j'aime avoir compagnie. » Elle me répond, « Et moi, quand je la suis, je suis bien aise de ne voir personne. » Je dis que c'est une faute de dire « quand je la suis » et qu'il faut dire « quand je le suis ». La raison de cela est que ce « le » qu'il faut dire ne se rapporte pas à la personne, car en ce cas-là, il est certain qu'une femme aurait raison de parler ainsi, mais il se rapporte à la chose.
Voilà, ce Vaugelas, tellement aimé par les femmes savantes, qui nous rappelle bien le XVIIe siècle et l'époque de la préciosité, eh bien, il est un bon grammairien, il est anaphorique, et bien s'il reprend pas le là, il ne se reprend pas une personne, et bien il faut mettre le en effet. Et on ajoute une petite anecdote qui est amusante, et c'est ce que fait remarquer Madame de Sévigné, justement, au sujet du le et du là.
Ménage rapporte également que Madame de Sévigné s'insurgeait avec véhémence contre ceux qui voulaient lui faire changer d'habitude et quasiment de sexe. Madame de Sévigné s'informant de ma santé, je lui dis « Madame, je suis enrhumée. Je la suis aussi, me dit-elle. Il me semble, madame, que selon les règles de notre langue, il faudrait dire « je le suis ». Vous direz comme il vous plaira, ajouta-t-elle. Mais pour moi, je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement.
Voilà. Madame de Sévigné, avec son art de la répartie et de dire les choses en peu de mots et de façon imagée. On va maintenant passer à un autre domaine, c'est celui du vocabulaire. Et cette fameuse question du genre, que ceux qui apprennent la langue française trouvent qu'on est vraiment bizarre avec cette question du genre. Et c'est le genre des lettres inanimées. Par exemple, minuit, et bien quelquefois, elle se plaît à le remarquer, le nom change. Il peut se féminiser ou se masculiniser. Pour minuit, on disait autrefois la minuit, et c'est donc une masculinisation, mais on voit aussi le sens inverse avec le sphinx. Le sphinx est devenu la sphinge. Il n'y a d'ailleurs pas longtemps que je me suis aperçu que c'était au féminin, moi, hein, mais il est bel et bien passé au féminin. Et on peut dire aussi, on peut remarquer une récupération qui est opportuniste. Aigle, après Napoléon, et ben il est devenu masculin. C'est typique, c'est typique. Et on va revenir à Becherel, et à travers qui a eu des collègues et qui disent la même chose que lui, page 97.
Certains des collègues de Becherel font même, poursuivant la guerre contre une population qui ne cesse de grossir, jusqu'à citer une autrice invitant ses semblables à ne pas l'imiter. Ainsi, Madame de Puisieux aurait-elle écrit « Une femme auteure n'a rien à espérer que la haine de son sexe et la crainte de l'autre. » Du moins, si l'on en croit Boite et Giraud du Vivier, qui le recopie, phrase que les continuateurs de Boite se feront un plaisir de laisser dans la 13e édition de son dictionnaire en 1851, en ne rectifiant que le nom de l'autrice, Madame Cottin. Autre message subliminal qui apparaît à la lumière des exemples précédents. À en croire ces linguistes, les femmes n'ont quasiment jamais écrit, sauf pour envoyer à leurs semblables des signaux négatifs. L'écrasante majorité des exemples cités proviennent en effet d'ouvrages d'hommes, alors même que tout le monde connaît de très grandes autrices. Becherel pousse ici, une fois de plus, le bouchon plus loin que personne. D'une part, il ne cite quasiment pas d'autrices, alors que les livres de Sévigné et de Lafayette sont des best-sellers de son temps, pour ne rien dire de ceux de Stel, de Sand et de Cottin. D'autre part, il intitule son ouvrage « Grammaire nationale ou grammaire de Voltaire, de Racine, de Fénelon, de Jean-Jacques Rousseau, de Buffon, de Bernardin de Saint-Pierre, de Chateaubriand, de Lamartine et de tous les écrivains les plus distingués de la France, renfermant plus de 100 000 exemples qui servent à fonder les règles. » Les premières éditions prolongent même ce titre en ajoutant et constituent le code de la langue française. Il faut croire que le code civil et le code pénal ne suffisaient pas à assurer la suprématie masculine.
On voit l'ironie de Lanvieno au sujet de ces langages. À noter, hein, tous les noms qui sont cités sont des noms d'auteurs au baccalauréat. Au baccalauréat. Enfin, ça a changé parce que maintenant, ils ont plus d'auteurs plus contemporains qu'alors. Et on a appris la littérature à travers des écrivains masculins, alors qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient rudement importantes. Et ben non, on est allé derrière nos professeurs sur les hommes. Et après, il faut noter là l'importance de la Révolution française. On a remarqué plusieurs moments à la guerre de Cent Ans, les guerres de religion et la Révolution française. Eh bien, la Révolution française, avec la notion d'égalité, on pourrait croire qu'elle serait favorable aux femmes. Eh bien, pas du tout, hein. Au contraire, avec le rapport de force en faveur des femmes, c'est inversé. On connaît le destin de Alain de Gouges et on a vu les masculinistes l'emporter beaucoup. Et ainsi, au XIXe siècle, les masculinistes vont se trouver appelés pour rire le sexe laid. Page 102.
Ajoutons, parce qu'il faut bien rire, que les masculinistes vont jusqu'à se nommer eux-mêmes le sexe laid.
Oh, j'ai oublié de dire que les femmes s'appelaient le sexe faible ou le beau sexe. Voilà.
Tant il leur semble important de se dissocier de l'autre. Une pochade de Gustave Sandré et Adolphe Ricard est ainsi titrée en 1859 « Mesdames, les femmes et messieurs les hommes, parallèle entre le beau sexe et le sexe laid ». Il est un fait que les hommes ont accepté pour devenir le sexe incontestablement supérieur de s'en les dire. C'est ce que le psychanalyste anglais spécialiste du vêtement John Carnflugel qualifiera un jour de « grande renonciation masculine ». désignant ainsi la modification fondamentale du costume masculin, initiée en 1789 et achevée en quelques décennies. Les hommes, explique-t-il, renoncèrent à leur droit d'employer les diverses formes de parures brillantes, gaies, raffinées, s'en dessaisissant entièrement au profit des femmes. L'homme cédait ses prétentions à la beauté, il prenait l'utilitaire comme seule et unique fin. L'utilitaire sans doute, le droit de s'arroger seul la direction des affaires publiques aussi.
Et voilà, il y a la parure et puis il y a la réalité. Mais c'est vrai que quand on voit les beaux costumes de cour au XVIIe siècle, on se dit que l'allure des hommes a bien changé. Mais il faut, je rétablis un peu les choses là, c'est que ces beaux costumes, c'était le fait de grands seigneurs qui étaient très riches et qui voulaient briller à la cour du Roi Soleil, tandis que les bourgeois étaient habillés très strictement et le peuple, n'en parlons pas, il était plutôt habillé de guenille. Mais enfin, c'est amusant de noter au niveau de la classe bourgeoise, qui est celle qui a pris le pouvoir après la Révolution française, qu'il y a eu un besoin de faire sérieux. Vas-y.
Oui, j'ai envie d'ajouter qu'aujourd'hui, on mélange les codes, en particulier vestimentaires. Que ces messieurs, maintenant, on peut tous s'habiller de toutes les façons, féminines et masculines.
Donc, il y a une
évolution très nette en ce moment.
Ouais, ouais. Et puis, si on commence par le vêtement, ça ira peut-être bien jusqu'à la langue, parce qu'on le sent, et d'ailleurs, il y a des controverses maintenant. Je ne veux pas vous faire manquer la fin du livre, et elle se demande ce que cette promenade nous a appris sur la violence imposée à la langue française, parce qu'elle a vu une violence de ceux qui sont intéressés à la fois par le pouvoir, et puis ça se reflète sur la langue, c'est vrai. Alors il y a la violence des grammairiens, Vaugelas, Becherel, et puis il y a la violence du pouvoir directement avec la figure de Richelieu qui impose l'Académie. Et puis on voit le pouvoir de l'Académie, on est passé là à l'institution. Et c'est ainsi qu'elle dit qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait, et bon, j'avoue que moi aussi, une violence imposée à la langue française. Pour la violence, c'est plutôt de renoncer à l'orthographe et d'écrire auteur re ou livres et amis IE entre parenthèses S que faire comme d'habitude où c'est plus simple et ça va plus vite. Ensuite, elle remarque l'aide massive à la masculinisation, l'aide massive des institutions, l'école, l'administration. L'école, on croyait que c'était pour faire l'égalité, mais pas du tout. L'école de la Troisième République, ça a été l'école opposée à la féminisation. Et là, non seulement ces institutions ont signifié aux femmes qu'on n'en voulait pas, mais on voulait les mettre de côté, mais elle disait qu'elles n'étaient pas les bienvenues. C'est l'expression, hein, le livre date de 14. Eh bien, vous voyez bien à qui elle a été empruntée. Enfin, l'importance, c'est une troisième conclusion qu'on peut faire, enfin qu'elle fait, Eliane Viennot, l'importance de cette entreprise de masculinisation. Et c'est ce qui a amené à s'investir dans le terrain du langage. Parce qu'elle dit, les féministes, même les féministes militantes, au début, disent, oh, c'est pas si important le langage. Eh bien, si on prend conscience de l'importance de la violence, de la masculinisation de la langue, eh bien, on va s'apercevoir qu'il faut investir aussi sur le terrain du langage. Et à ce sujet, d'ailleurs, la France a longtemps, dans l'Europe, traîner les pieds. Heureusement qu'il y a le Québec qui nous a un peu secoués, mais pas tant que ça. Enfin, elle conclut en disant qu'il y a de quoi changer la langue. Le matériau, il est bien là, et les solutions sont là. Et il y a l'assurance qu'on a raison, et puis il y a la légitimité. Et la langue française, elle le dit fermement, elle n'est pas sexiste. Quoique on ait voulu la masculiniser, elle a été l'objet d'une violence, c'était du moins sa thèse. Et puis elle termine en disant, On dit beaucoup de mal de la langue française, mais peut-être que dans 20 ans, on parlera tous anglais ou chinois. Voilà. Galère, galère. Il est temps de rendre l'antenne à Yves. Et nous remercions Joachim qui est venu nous dépanner. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Avec le livre... Oh, mais ça fait rien, ça fait rien. Enfin, un livre intéressant de toutes les façons.
Mais de quoi ont-ils eu si peur? Walter Benjamin, Ernst Bloch et Siegfried Krahn.
Ah, ben dis donc, on va être dans
le 8 septembre 1926. Mais c'est une proposition, on n'a pas encore décidé. Aux éditions communes. Malaika.